Bonjour à tous, bienvenue sur Les Nouveaux Chemins.
He hath disgraced me, laughed at my losses, mocked at my gains, scorned my nation, thwarted my bargains, heated mine enemies, and what's his reason? I am a Jew!
On voit à quel point les apparences sont trompeuses. Le monde est constamment dupe de ses illusions. Lors d'un procès, quelle cause tordue et corrompue, lorsqu'elle est embellie par une voix gracieuse, ne cache pas son allure maligne? À l'église, quel péché mortel ne sera pas approuvé, béni, par quelque front austère citant un texte à l'appui, voilant le mal par une parure? Il n'est pas de vice assez stupide pour ne pas arborer un air de vertu en apparence. L'équipe des Nouveaux Chemins, elle, n'est que vertu, en présence de Lucie Tardy, Antoine Ravon, Colomba Grossi, Marianne Chassor, avec Midia Portis-Guérin cette semaine à la réalisation, Jean-Guilain Meige à la prise de son aujourd'hui, et celle que vous retrouverez à 10h51 pour ses 2 minutes papillons comme tous les jours, c'est Géraldine Mosna-Savoie. Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à tous. Plus de 200 ans après leur déclaration, Justine Lacroix et Jean-Yves Prancher proposent de faire le procès des droits de l'homme, et c'est dans un essai qui paraît aujourd'hui au Seuil.
Rendez-vous à 10h51. Quatrième et dernier temps aujourd'hui de notre série sur l'antisémitisme. Après les réflexions sur la question juive de Sartre, lundi en compagnie d'Adi Risk, la peur de l'autre imperceptiblement autre, mardi par Jean Kelevitch, grâce à Joël Ancel, l'histoire d'une haine qui n'est pas éternelle, hier en compagnie de l'historienne Marianne Matar-Bonucci, c'est aujourd'hui François Larocque, professeur émérite de littérature anglaise à Paris 3 Sorbonne Nouvelle, et l'auteur d'un tout nouveau dictionnaire amoureux de Shakespeare, qui vous emmène sur sa gondole dans l'univers shakespearien du Marchand de Venise. Bonjour à vous François Larocque.
Bonjour Adèle.
Alors que le monde pense que Machiavel est mort, son âme avait simplement passé les Alpes. À présent que Guise n'est plus, il a quitté la France afin de visiter ce pays et s'amuser entre amis. Pour certains, mon nom est sans doute odieux, mais ceux qui m'aiment me protègent de leur calomnie. Faites-leur savoir que je suis Machiavel, celui qui ne fait aucun cas des hommes ni de leurs paroles. Je fascine ceux qui me haïssent le plus. Et bien que certains dénoncent ouvertement mes livres, ils me lisent, en voyant là un moyen d'accéder au trône de Saint-Pierre. Et quand ils me rejettent, ils sont empoisonnés par mes adeptes ambitieux. Pour moi, la religion n'est rien qu'un jouet d'enfant, et il n'est d'autre péché que celui d'ignorance. Mais où que je me rende, je ne viens pas ici pour donner une conférence en Angleterre, mais pour représenter la tragédie d'un juif qui jubile en voyant ses sacs bourrés d'écus et qui a fait fortune en suivant mes principes. Mon seul souhait est qu'il soit traité selon son dû et qu'on ne lui fasse pas un très mauvais accueil sous prétexte qu'il se réclame de moi.
En dépit de ces mangeurs de porc, de ces chrétiens, nations non élues et jamais circoncises, des moins que rien dont nous ne faisions aucun cas avant que Vespasien et Titus nous conquièrent, me voici redevenu aussi riche qu'avant. Ils auraient bien voulu que ma fille se fasse nonne. Elle est, chez moi, dans la maison que j'ai achetée, aussi grande et belle que celle du gouverneur. Moi, je veux y habiter pour mieux narguer Malte. Farnèse me donne la main, je veux avoir son cœur, mais aussi celui de son fils, ou alors gare. Je ne suis pas, moi, de la tribu de Lévi qui peut si vite oublier l'infamie. Nous, les Juifs, pouvons, si nous le voulons, faire le dos rond, mordre avec un grand sourire tout en ayant l'air aussi innocent que l'agneau qui vient de naître. J'ai appris à Florence comment baiser ma main, plier l'échine quand il me traitait de chien, me prosterner aussi bas qu'un pauvre moine en espérant les voir crever de faim sur un grabat sans l'aide de la quête faite à la synagogue. Et quand on me tendait le plateau des offrandes, je voulais cracher dedans en guise de charité.
À bord de votre gondole, nous avons fait un léger détour, François Larocque. Avant d'arriver à Venise, nous sommes passés par Malte, avec cette pièce de Christopher Marlowe, contemporain de Shakespeare, qui s'appelle « Le Juif de Malte ». Et on vient d'entendre le prologue que j'ai lu, incarné par la personne de Machiavel, et ensuite le monologue de Barabbas, le juif de la pièce, qui est bien plus virulent que ce qu'on peut lire dans « Le Marchand de Venise » de Shakespeare.
Oui, Marlowe écrit cette pièce en 1592, après la pièce qui consacre au massacre de la Saint-Barthélemy en 1572, donc 20 ans d'écart, ce qui est remarquable puisque c'est pratiquement de l'histoire contemporaine, ce qui est rarissime à l'époque, où il s'en prend aux Guises, au duc de Guise, c'est-à-dire à la Ligue des catholiques. Donc flèche religieuse contre les catholiques, grand ennemi de l'Angleterre avec les Espagnols, et ensuite on passe aux Juifs. Ce personnage qui se présente comme un disciple de Machiavel qui dit le prologue et qui est aussi en anglais un jeu de mots sur make evil, celui qui fait le mal. Voilà. Et Barabbas, donc le juif, est un scélérat qui est aussi l'héritier du vice de la moralité anglaise, c'est-à-dire ces diables qui étaient à la fois joyeux et terrifiants. Et il a effectivement cette double caractéristique.
Le Juif de Malte est une pièce qui est très peu connue aujourd'hui et pourtant Marlowe, alors bon, est mort à 19 ans, donc extrêmement
29
jeune.
Ans,
d'accord, bon, toujours quand même assez jeune, mais il a eu le temps d'écrire plusieurs pièces qui aujourd'hui ont complètement, quasiment disparu de la circulation. En France, on ne le lit pas en tout cas.
Bernard Sobel, je crois, avait monté le massacre à Paris et me semble-t-il aussi le Juif de Malte. Bon, il est certain que c'est une pièce qui, en France, ne manquerait pas de provoquer beaucoup de réactions hostiles. Moi, je l'ai vu jouer en Angleterre à plusieurs reprises. C'est une excellente pièce, c'est une farce cruelle.
Qui est très, très drôle.
Qui est très drôle et très cruelle.
Et là, pour voilà. Le coup, on parle de l'antisémitisme, là, on est en plein dedans quand même.
On est en plein dedans, on est dans les stéréotypes. Le Juif, c'est véritablement l'emblème du mal, c'est l'incarnation du mal. Il ne recule devant aucun stratagème pour satisfaire sa vengeance. C'est un personnage de vengeur, puisque les Turcs exigent, en arrivant à Malte, une rançon. Et le gouverneur de Malte, Farnèse, ne trouve rien de mieux que de rançonner les Juifs, alors que les Juifs avaient historiquement été tous massacrés sur l'île de Malte. Mais Marlowe le ressuscite pour en faire une sorte de victime de la spoliation des chrétiens. Et une fois qu'on lui a ôté son cher argent, il n'a plus qu'une idée en tête, c'est se venger à la fois des Turcs, du gouverneur, et il envoie sa fille Abigail dans le couvent des nonnes où il a caché son or. Donc sa fille doit simuler une conversion au christianisme pour pouvoir essayer de récupérer l'argent pour son père. Et la pièce va aller comme cela de méfait en méfait jusqu'à ce que le juif, alors qui complique toute une série d'intrigues, qui se met, si je puis dire, sa fille à dos, puisque sa fille est horrifiée par le cynisme de son père, qui laisse par exemple deux de ses prétendants s'entretuer, ça l'arrange, fils du gouverneur, etc., et trahit son père. Et à ce moment-là, Barabbas se venge en empoisonnant l'eau qui alimente le monastère où sa fille s'est réfugiée, de sorte que toutes les nonnes et sa fille elle-même meurent. Tout ça pour, effectivement, satisfaire sa soif de vengeance. Et à la fin, c'est lui qui est la victime de son propre piège, puisqu'il avait prévu que...
Un chaudron rempli d'eau bouillante.
Voilà. Et par suite d'une mauvaise manipulation, c'est lui qui est victime de ce piège, la trappe s'ouvre et il tombe dans le chaudron bouillant et il meurt dans des abominables imprécations, dans des blasphèmes épouvantables.
Et alors là, vous parleriez d'antisémitisme ou d'antijudaïsme, parce que la dimension religieuse est extrêmement présente.
Voilà, c'est l'antijudaïsme, c'est évident. On parlait tout à l'heure des catholiques, qui étaient les grands ennemis de l'Angleterre et que Marlowe connaissait bien, puisqu'il était probablement espion à la solde des premiers ministres, Cecil, et qu'une partie de son travail, en tant qu'agent provocateur, consistait à aller dans les séminaires jésuites, catholiques anglais, comme Douai, comme Saint-Omer, pour essayer de connaître le nom des Anglais qui étaient là. Et une fois qu'il avait ces listes, il les transmettait à la couronne. Et si d'aventure ces catholiques ou ces jésuites remettaient le pied en Angleterre, comme c'était souvent le cas, pour continuer à dire des messes dans des propriétés privées, dans des châteaux, où ils se cachaient dans des trappes, dans des trous, à ce moment-là, ils étaient arrêtés, torturés et exécutés de la manière la plus abominable. Donc Marlowe avait une connaissance politique presque de l'intérieur de ces réseaux. Et en ce qui concerne les Juifs, il n'est pas impossible, on n'en a pas la preuve, que certains juifs s'étaient eux-mêmes mis au service de la couronne anglaise, des protestants donc, pour lutter contre les catholiques et en particulier l'influence espagnole, pour en quelque sorte se venger de l'expulsion.
Alors oui, c'est ça qu'il faut dire, c'est qu'au moment où cette pièce est écrite, à la fin du XVIe siècle, les juifs ont été expulsés depuis de nombreuses années, voire siècles en Angleterre.
Alors officiellement, il n'y a pas de juifs en Angleterre.
C'est ça.
Ils ont tous été expulsés d'Angleterre par le roi Édouard Ier en 1290. Alors beaucoup ont regagné la France, puisque c'était probablement des juifs français qui avaient été importés, si je puis dire, en Angleterre par Guillaume le Conquérant en 1066. Et beaucoup de juifs, cependant, étaient restés en se convertissant, en se faisant baptiser et en changeant de nom. C'est ce qu'on appelle les maranes, du nom espagnol des maranos, c'est-à-dire des juifs qui continuaient à pratiquer leur culte en secret.
Écoutons un extrait du Marchand de Venise. Alors cette fois, on laisse Barabbas et on va vers Shylock, le personnage juif du Marchand de Venise, qui n'est pas le Marchand de Venise. Ceux qui n'ont pas lu la pièce ont tendance à penser que le Marchand de Venise est le juif, or pas du tout. Écoutons-le dans une des premières scènes où il va proposer un contrat en échange de l'argent qu'il accepte de prêter à certains des personnages, sous réserve qu'on le paye, alors non pas argent comptant, mais qu'on lui délivre son dû. Écoutez-le, c'est lui qui va vous dire ce qu'il attend.
Signor Antonio, many a time and oft in the Rialto, you have reviled me about my monies and my usances. Still I have borne it with a patient shrug, for sufferance is the badge of all our tribe. You call me misbeliever, cutthroat dog, and spit upon my Jewish gabardine. And all for use of that which is mine own. Well, it now appears you need my help. You come to me and you say, Shylock, we would have money. You say so. You that did void your room upon my beard and kick me as you spurn a stranger cur over your threshold. Money is your suit. What should I say to you?
Signor Antonio, en plein Rialto, devant tout le monde, maintes et maintes fois, vous m'avez attaqué sur mon argent et sur ce qu'il me rapporte. J'ai supporté cela avec patience, en haussant un peu les épaules, car savoir supporter est une vertu de notre race. Vous m'avez appelé mécréant, coupe-jarret, chien errant, et vous avez craché sur mon caban de juif. Tout cela parce que j'use comme il me plaît de ce qui est à moi. Et maintenant, il paraît que vous avez besoin de moi. Alors, vous venez à moi et vous me dites, Shylock, il me faut de l'argent. Me dites cela, vous, qui crachez sur moi et me chassez à coups de pied comme un chien errant. C'est de l'argent qu'il vous faut. Voilà tout. Et qu'est-ce que je devrais dire, moi? Ne devrais-je pas lui répondre? Est-ce qu'un chien errant a de l'argent? Est-il possible qu'un chien errant puisse prêter 3000 ducats? Ou alors, à votre avis, dois-je plier humblement les chines et d'un ton servile, retenant mon haleine dans un humble murmure, vous répondre, mon bon monsieur, vous avez craché sur moi mercredi dernier. Dès l'autre jour, vous m'avez chassé à coups de pied. Tel autre, vous m'avez appelé chien errant. Mais pour toute cette courtoisie, je vous prête tout l'argent que voici.
Je suis capable de t'appeler encore ainsi, de cracher sur toi encore, et de te repousser du pied. Si tu acceptes de nous prêter cet argent, je ne te demande pas de nous le prêter comme à des amis, car l'amitié n'a jamais tiré profit de ce stérile métal confié à un ami. Je te demande de me le prêter comme à ton ennemi, que tu n'auras aucun scrupule à saisir à la gorge s'il manque à son engagement.
Allons, allons, vous voyez comme vous vous emportez. Je veux faire amitié avec vous, avoir votre affection, vous aider dans vos pressants besoins, sans même vous demander le moindre intérêt. Et vous ne voulez pas m'entendre, sans intérêt. C'est pourtant gentil ce que je lui offre, non?
Ce sera en effet la bienveillance même, mais permettez-moi d'être étonné.
Pourquoi? Cette bienveillance, je vais vous en donner la preuve tout de suite. Venez avec moi chez un notaire et signez-moi un simple billet. Et en matière de plaisanterie, mettez dessus, si vous voulez, que si vous ne me remboursez pas un tel jour, en tel endroit, la somme ou les sommes mentionnées dans l'acte, que, par exemple, le débit soit un morceau de votre belle chair à découper et à prendre dans tel ou tel endroit de votre cœur qu'il me plaira.
Ma frère, d'accord. Je signerai ce billet et j'irai partout, proclamant qu'il n'y a pas plus bienveillant que le juif.
La version française est une mise en scène de Jean Le Poulain et Francis Deschamps de 79 avec une adaptation de Jean Anouilh. Et c'est Jean Le Poulain dans le rôle de Shylock que l'on entend. La version anglaise, c'est un extrait du film de Michael Radford sorti en 2004, Le Marchand de Venise, avec Jeremy Irons dans le rôle d'Antonio et Al Pacino dans le rôle de Shylock. Shylock, un très bon film d'ailleurs, François Larrivé est d'accord. Hein, la version américaine est très très bonne. Alors ce qui est étonnant ici, dans cette, on est la scène 3 de l'acte 1, c'est que bon, l'apparition de Shylock, effectivement, on va le voir parce qu'on a besoin d'argent, donc d'emblée, le juif est celui qui prête de l'argent. Mais celui-ci demande d'emblée à ce qu'un contrat soit établi. C'est que ce qui est plus surprenant, c'est que le juif est brandi d'emblée la loi.
Mmh. Oui, et il s'agit d'un contrat sous sein privé, en réalité, qui sort de l'ordinaire, puisque, effectivement, la contrepartie n'est pas le remboursement de la somme avec les intérêts, ce qui est normalement le métier du juif. Là, on est à Venise, il y a un ghetto, dont Shakespeare d'ailleurs ne parle pas, mais on sait que les juifs exercent la fonction de banquier, en quelque sorte, à une époque où les grandes banques ne prêtaient qu'au roi, au prince, aux très grands marchands. Mais là, Antonio n'est qu'un marchand, disons, de dimension moyenne, et il va trouver Shylock et son ennemi juré, en quelque sorte. Il y a entre eux un conflit à la fois d'hommes, un conflit d'ordre religieux, bien sûr. Shylock lui reproche d'avoir été traité de chien, de s'être fait cracher dessus sur sa gabardine, hein, dit « my Jewish gabardine », mon manteau. Hein, de juifs, donc l'insigne reconnaissable en quelque sorte de ces juifs. Et il lui demande en échange, non pas une somme plus des intérêts, mais, chose très étrange, une livre de chair. Et c'est là, justement, sur toute cette ambiguïté de la livre de chair, que repose ce côté problématique de cette comédie. Cette comédie sombre, cette comédie cruelle.
Mais c'est une comédie quand même. Hein.
Mais c'est une comédie, c'est une comédie. D'ailleurs, le juif lui-même n'est pas du tout Barabbas, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui se présente comme humain. C'est-à-dire, vous m'avez craché dessus, vous m'avez traité de chien. Est-ce qu'un chien a de l'argent? Est-ce qu'un chien peut prêter de l'argent? Donc effectivement, il fait un certain nombre de remontrances. Il profite de la situation. Antonio est à ses pieds, il a besoin d'argent, donc il profite pour régler ses comptes, en quelque sorte. Mais il y a ce mystère de la livre de chair et qui fait de Shylock un personnage qui est plus un personnage de conte de fées, finalement, qu'un personnage réaliste. Il a des éléments réalistes, il a des éléments mythologiques ou imaginaires. C'est un peu l'ogre de la fable. Hein, c'est celui qui veut de la chair humaine en échange d'argent. Alors là-dessus, évidemment, des gens comme Karl Marx ont brodé en disant que, effectivement, l'argent veut la chair des hommes. La livre de chair devient le symbole, en quelque sorte, d'une sorte de capitalisme avide, cruel, hein, qui mange les hommes, en quelque sorte. Mais derrière tout cela, il y a toute une série de stéréotypes, de croyances de l'époque qui remontent au Moyen-Âge sur les pratiques attribuées aux Juifs, à savoir qu'ils pouvaient crucifier des enfants, ils se servaient de bébés pour leurs rites sanglants. Et aussi cette croyance très étrange selon laquelle les Juifs auraient des menstrues, comme les femmes. D'où l'idée de compenser cette perte de sang par du sang chrétien. Et on retrouve certains de ces stéréotypes dans Le Marchand de Venise, de façon assez allusive. Mais ça fait partie de la fable, ça fait partie de cette dimension mythologique qu'on retrouve dans Le Marchand de Venise, avec la loterie amoureuse, avec, disons, la conquête de Portia par Bassanio.
Oui, parce qu'en parallèle à l'histoire de Shylock et d'Antonio qui lui emprunte de l'argent et de Bassanio, son ami, c'est aussi une comédie, disons, romantique, où il s'agit aussi pour deux jeunes hommes de demander en mariage de femmes.
Voilà, absolument. C'est une comédie, donc une histoire d'amour, forcément, ouais, qui se terminera par des mariages et qui se situe dans deux lieux différents. Il y a Venise, qui est le lieu des affaires ou du négoce, de l'argent, de l'or. Et il y a Belmont, où habite la belle Portia.
Et cette deuxième intrigue va, comme souvent chez Shakespeare, ne pas rester isolée complètement de la première. Une rencontre va avoir lieu et c'est là où on se rend compte que tout le jeu de dupe que met en scène Shylock lui-même pour essayer d'avoir ceux qui lui empruntent de l'argent, eh bien les femmes elles-mêmes, les personnages féminins n'en sont pas exemptes, elles savent très bien comment se moquer des hommes pour arriver à leur fin.
Tout à fait, et mon interprétation, c'est que une fois que Shylock a disparu de la scène, là aussi c'est un peu un paradoxe, que finalement, même si le titre Le Marchand de Venise renvoie effectivement un personnage peut-être un peu secondaire, Antonio, c'est Shylock qui est le véritable héros de la pièce. Quand on parle du Marchand de Venise, c'est Shylock qu'on a en tête, c'est lui qui est au centre du problème de la pièce. Il disparaît à la fin de l'acte 4, après le procès, voilà. Et l'acte 5 se déroule dans un lieu, là aussi, fabuleux, mythique, Belmont, donc proche de Venise, qui est un lieu où règne la musique, l'harmonie, mais où les femmes prennent leur revanche. Il y a là toute une comédie, effectivement, vous avez dit, comédie des dupes, comédie du travestissement, retournement, mon interprétation, donc, c'est que finalement, Portia est elle-même pire que Shylock. C'est-à-dire que
dites-nous qui est Portia, pour ceux qui n'ont pas la tête en tête.
Portia est la belle héritière que convoite l'Europe entière, même l'Afrique du Nord, puisqu'il y a un prince du Maroc qui vient lui faire la cour. Et selon la volonté du père de Portia, qui est décédé, sa fille ne peut épouser que le prétendant qui aura trouvé le bon coffret. Alors il y a trois coffrets, un en or, un en argent, un en plomb. Et les prétendants donc doivent choisir. Et celui qui choisit le bon coffret aura la main de l'héritière. Donc il y a là une sorte de conte de fées, mais en même temps une variation sur les valeurs d'échange. Est-ce que l'amour a à faire avec l'argent? Quel est le lien entre justement la passion amoureuse et le métal, le vil métal que Shylock sait multiplier comme les moutons dans l'histoire de Laban et de Jacob? Donc Portia, effectivement, s'arrange. Là aussi, les interprétations varient, mais elle fait, alors que pour les autres prétendants, elle ne dit rien, elle ne donne aucun indice, pour le beau Bassanio dont elle était prise, elle fait chanter un air par un page qui contient des codes secrets, que c'est déchiffrer Bassanio qui choisit le bon coffret, qui n'est évidemment pas le coffret en or.
Non, et d'ailleurs, ce qui permet, quand le prince du Maroc vient choisir un des coffrets, il choisit celui en or parce qu'il se dit « mais Portia est tellement précieuse qu'elle ne peut pas être dans le coffre en plomb ». Et ce qui permet à cette morale de s'énoncer au sein de la pièce, tout ce qui brille n'est pas or. Et il y a une vraie réflexion, comme dans la plupart des pièces de Shakespeare d'ailleurs, sur le rôle des apparences et de l'illusion au sein de cette pièce, si bien que le personnage de Shylock est particulièrement intéressant parce que son ambivalence va au-delà des apparences. C'est-à-dire que finalement, il est caricatural qu'en apparence. Et lorsqu'on s'intéresse au personnage et qu'on continue à lire la pièce, on voit bien que lui-même, l'ambivalence est, disons, proprement humaine. Et c'est en cela que Shakespeare sauve ce personnage de juif.
C'est vrai. Et les deux seuls personnages sincères et authentiques de la comédie, c'est Antonio et Shylock. Les deux ennemis, les deux faces d'une même médaille, en quelque sorte, le chrétien et le juif. Alors que les autres trichent. Bassanio triche, Portia et sa triche. Donc, il y a une authenticité de Shylock, effectivement.
On va l'entendre, cette authenticité qui peut être surprenante et qui est d'ailleurs assez questionnée, parce que beaucoup de personnes pensent que même que dans la fameuse tirade de Shylock, il joue des termes, et c'est un excellent rhéteur qui parvient à manipuler les autres grâce à la langue. Écoutons cette tirade, on est à la scène 1 de l'acte 3.
He hath disgraced me and hindered me half a million. Laughed at my losses, mocked at my gains, scorned my nation, thwarted my bargains, cooled my friends, heated mine enemies, and what's his reason? I am a Jew! Had that a Jew eyes? Had that a Jew hands? Organs? Dimensions? Senses? Affections? Passions? Fed with the same food? Hurt with the same weapons? Subject to the same diseases? Healed by the same means? Warmed and cooled by the same winter and summer as a Christian is? If you prick us, do we not bleed? If you tickle us, do we not laugh? If you poison us, do we not die? And if you wrong us, shall we not revenge? If we are like you in the rest, we will resemble you in that. If a Jew wrong a Christian, what is his humility? Revenge? If a Christian wrong a Jew, what should his sufferings be? By Christian example. Why revenge? The villainy you teach me, I will execute, and it shall go hard, but I will bet the instruction.
Avec notre propreté, je l'ai pour l'éternelle promise que jamais nous n'atteindrons. Et pour celles qu'ils ont conquises et qu'à leurs fils ils lègueront.
Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance et l'air de Shylock dans Le Marchand de Venise adapté à l'opéra par Reynaldo Hahn. Il est 10h28 et c'est le quatrième et dernier temps de notre série consacrée à l'antisémitisme. Et c'est de Shakespeare que nous parlons aujourd'hui du Marchand de Venise en compagnie de notre invité François Larocque qui vient de faire paraître un dictionnaire amoureux de Shakespeare, ça tombe bien, chez Plomb.
Antonio m'a humilié et m'a fait perdre 1 million. Il s'est gaussé de mes pertes, s'est moqué de mes gains. Il a méprisé ma nation, gêné mes affaires, refroidi mes amis, échauffé mes ennemis. Et tout cela, pourquoi ? Je suis juif. Est-ce qu'un juif n'a pas Dieu ? Est-ce qu'un juif n'a pas de main ? Des organes, des mensurations, des sens, des affections, des passions ? Est-ce qu'il ne se nourrit pas avec la même nourriture ? Est-ce qu'il n'est pas soumis aux mêmes maladies, guéri par les mêmes moyens, réchauffé et refroidi par le même hiver et le même été comme un chrétien peut l'être ? Si vous nous piquez, est-ce qu'on ne saigne pas ? Si vous nous chatouillez, est-ce qu'on ne rit pas ? Si vous nous empoisonnez, est-ce qu'on ne meurt pas ? Et si vous nous faites du mal, est-ce qu'on ne va pas se venger ? Si nous sommes comme vous pour tout le reste, nous vous ressemblons aussi en cela. Si un juif a fait du tort à un chrétien, à quelle charité a-t-il droit ? À une vengeance ! Si un chrétien fait du tort à un juif, quelle disposition lui inspire l'exemple du chrétien ? Eh bien, la vengeance ! La méchanceté que vous m'apprenez, je la mettrai en pratique, et vous pouvez compter sur moi pour que je la perfectionne.
La version française est de vous, François Larocque. C'est votre traduction qu'on trouve au livre de poche du Marchand de Venise, interprété par le comédien Jean-Louis Jacopin. On entend davantage dans la version française, on avait entendu la version anglaise juste avant l'ère d'opéra. L'apparition du terme même qui motive Shylock, qui est celui de vengeance. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque Shylock évoque la vengeance, il dit « mais c'est pour faire comme vous, vous autres chrétiens ». Il y a un jeu de miroir ici entre le juif et les chrétiens.
Absolument. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je dirais que la pièce est sans doute d'une certaine manière anti-judaïque, voire judéophobe. Ce qu'elle fait circuler quand même un certain nombre de clichés, mais qui sont eux-mêmes démentis par l'humanité revendiquée de Shylock. Dans Le Juif de Malte de Marlowe, le juif est un être diabolique, déshumanisé, presque psychopathe. Quelqu'un qui jouit du mal, qui est une sorte de perversité. Chez Shylock, il y a un mélange de perversité drôle. Hein, quand il parle de sa livre de chair, il dit this is kind I offer. Hein, je vous propose un contrat en nature, mais en même temps kindness, hein, la gentillesse. Gentil, juif, enfin, il y a toute une série de jeux de mots. Hein. C'est un plaisantin, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il dissimule.
Ils sont difficiles à traduire en français, non ?
Très difficile à traduire. Oui. Très difficile. C'est toujours cette langue ambiguë, ambivalente, avec plusieurs jeux de mots simples à la fois et que le français ne peut pas rendre littéralement. Et donc, il y a.
Il est moins taquin en français qu'en anglais, en fait.
Qu'en anglais. On prend cette tirade très au sérieux. Elle l'est, effectivement. Mais en même temps, Shylock ici dit que est-ce qu'un juif ne se nourrit pas avec les mêmes nourritures que vous, ce qui est quand même une petite contradiction puisque on sait bien qu'il ne veut pas manger avec les chrétiens. On l'invite à dîner et il dit non, je n'irai pas souper avec les chrétiens. Et puis il y a aussi quelque chose qui isole Shylock comme en tant qu'étranger, en tant que différent. C'est effectivement l'autre de la comédie. Celui qui va devenir en quelque sorte presque le bouc émissaire du carnaval, hein, puisque Venise, on sait, est en carnaval pendant pratiquement 6 mois de l'année, et le juif est en quelque sorte la cible. Mais c'est aussi l'image du puritain du temps de Shakespeare. C'est un peu l'équivalent de Malvolio, l'intendant puritain de la Nuit des Rois. C'est celui qui n'aime pas la fête. Hein, les chrétiens font la fête, ils sont superficiels, ils dépensent de l'argent, alors que moi, je suis austère, j'accumule, je ferme bien à clé ma maison. Il se moque des chrétiens avec leur face vernissée, leur masque. Hein, lui est quelqu'un qui, au contraire, pratique la transparence, la simplicité dans son mode de vie. Donc il y a quand même toute une série de différences qui sont bel et bien marquées par Shylock. Donc ici, ce qu'il revendique, c'est son statut d'homme, hein, qui l'assimile à l'ensemble de l'humanité. Mais en même temps, la pièce, tout en réaffirmant ce statut d'homme, marque des différences, hein, dans son comportement, dans sa façon d'être, sa façon de vivre.
Et comment expliquez-vous le choix de Shakespeare d'avoir recours à ce personnage du juif, dans toute son ambivalence certes, mais qui est unique dans les pièces de Shakespeare ?
Oui, comme le mort, Othello est unique, hein, toujours à Venise. Il y a chez Shakespeare effectivement cette espèce de génie d'un personnage complexe, d'un personnage qui chez Marlowe tient de la caricature, du stéréotype, chez Shakespeare, si vous voulez, a à la fois une apparence de scélérat, de méchant, mais qui en même temps est profondément humain. Et c'est en cela que Le Marchand de Venise n'est pas une pièce simple, une comédie, bon, fonctionne sur un certain nombre de situations, de rythmes, etc. Quand on a affaire au personnage de Shylock, on est quand même là, placé face à une interrogation. Et je crois que c'est ce qui intéresse Shakespeare, c'est cette interrogation de la différence. Comment le juif se comporte-t-il dans la société ? Quel est son rôle ? Quelle est la vision qu'on en a ? Et elle n'est pas du tout aussi simple ou simpliste que celle de Marlowe.
Oui, on n'entend pas chez Shakespeare une volonté de dénonciation du juif. Au contraire, même ce que vous en dites montre que c'est presque un ressort narratif pour tendre à l'univers chrétien qui est le reste de la pièce, un miroir aussi. C'est aussi une manière pour les hommes de se regarder eux-mêmes.
Voilà, c'est ce que vous avez dit, l'effet de miroir c'est tout à fait juste. C'est-à-dire que finalement, il n'y a pas de différence. Ce sont pratiquement les mêmes mis à l'envers, en quelque sorte. Chrétiens et juifs sont les uns et les autres envoyés dos à dos, je pense, dans la pièce. S'il y a une singularité du juif, c'est bien pour démontrer que dans sa singularité, il n'en reste pas moins humain. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vision idéaliste d'un homme universel qui serait détaché de son contexte socio-économique, de ses appartenances religieuses, voire ethniques, mais que tout en étant profondément idiosyncrasique, individuel, il ne s'en rattache pas moins à l'humanité en général. Et ça, je crois que c'est le message shakespearien.
Comme s'il avait besoin de cette figure pour compléter la palette de l'humanité qu'il essaie de dépeindre dans toutes ses pièces.
Exactement.
Shylock est le versant dramatique de la pièce, quand même.
Tout à fait. Et qui fait que la pièce comporte une part d'ambiguïté, une part de mystère, une part d'interrogation, comme je disais tout à l'heure.
Alors écoutons la défaite de Shylock. Nous sommes dans la première scène de l'acte 4, le procès a lieu, et Shylock, qui avait brandi la loi, qui pensait que la loi vénitienne allait le protéger de la trahison possible de Bassanio et d'Antonio, eh bien, voit celle-ci se retourner contre lui-même, qui crée un moment, effectivement, proprement dramatique, qui tranche avec le ton comique du reste de la pièce.
The Jew shall have all justice, no haste. He shall have nothing but the penalty. Therefore, prepare you to cut off the flesh. Shed then no blood, nor cut you less nor more, but just a pound of flesh. If you take more or less than a just pound, be it but so much as makes it light or heavy, in the substance or division of the 20th part of one poor scruple, nay, if the scale do turn but in the estimation of a hair, you die, and all your goods are confiscated.
Shall I not have even my ransom?
You shall have nothing but your forfeiture, to be so taken at your peril, Jew.
By the devil, give him good of it! I'll stay, no longer question.
Tarry, Jew, the law has yet another hold on you.
En ce cas, que le diable se charge du remboursement! Je ne resterai pas ici une minute de plus à discuter!
Arrête, ô juif! La justice te retient encore. Il est prescrit dans les lois de Venise
que s'il est prouvé qu'un étranger, directement ou indirectement, a voulu attenter à la vie d'un citoyen, la partie contre laquelle il a comploté saisira la moitié des biens du coupable, l'autre moitié revenant au trésor privé de l'État, et que la vie de l'offenseur sera livrée à la merci du doge qui aura voix souveraine.
Or, je dis que tu tombes sous le coup de cette loi. Car il est prouvé que directement ou indirectement, tu as voulu attenter à la vie du défenseur et que tu encours la peine que je viens de mentionner.
Pour que tu vois combien nos sentiments diffèrent, je te fais grâce de la vie avant que tu ne la demandes. La moitié de tes biens est à Antonio, l'autre moitié revient à l'État. Mais ton repentir peut encore commuer la confiscation en une amende.
Soit pour la part de l'État... Non, pour celle d'Antonio.
Déprenez ma vie et tout. Me faites grâce de rien. Vous êtes le plus fort. Vous prenez ma maison en prenant ce qui la soutient. Vous prenez ma vie en m'enlevant ce dont je vis.
Qu'il plaise à Monseigneur le Doge et à toute la cour de le tenir quitte sans amende de la moitié de ses biens. À cette faveur, deux conditions. Qu'il se fasse chrétien.
Arrive !
Qu'il enregistre devant la cour donation de tous les biens qu'il possédera à sa mort, à sa fille Jessica et à son gendre Lorenzo.
Il fera ainsi, ou je rétracte la grâce de la vie que je viens de lui accorder.
Alors dites-nous, François Larocque, comment on en est arrivé là, puisque aux dernières nouvelles, Shylock avait établi un contrat qui lui permettait de prêter de l'argent à Antonio, sous condition de, s'il ne le remboursait pas, d'obtenir une livre de chair. Or celui-ci, Antonio, perd sa fortune, donc il n'a pas d'argent, donc il ne peut pas le rembourser. Donc comment ça se fait que ce soit Shylock qui se retrouve comme victime ici?
Alors, Shylock fait l'erreur, ou a la présomption, de penser que le tribunal de Venise va lui donner raison. Or, comme il s'agit d'un contrat sous sein privé, il n'a pas besoin de tribunal. Mais enfin, il veut une sorte de reconnaissance, je pense, à travers ce procès. Et Shylock va se montrer impitoyable. Toute la première partie de cette longue scène de tribunal, donc de théâtre dans le théâtre, et on sait à quel point cette question de la loi, du droit, est importante dans l'œuvre de Shakespeare, va donner lieu à un brutal retournement grâce à une subtilité, une argutie juridique avancée par Portia, qui est déguisée en avocat,
voilà,
Balthazar.
Voilà, c'est ici la Portia que vous avez entendue.
Voilà. Donc, Shylock s'en tient à la lettre de son contrat, et tous les arguments qu'on peut lui avancer se heurtent à ses objections en disant « Non, moi je veux l'application à la lettre de mon contrat. » Et l'avocat lui dit « Eh bien, Antonio, dénudez votre poitrine. » Et on voit Shylock aiguiser son couteau sur la semelle de sa chaussure, avec un jeu de mots, là encore difficile à rendre, puisque le mot « soul », qui veut dire la semelle, « soul », c'est aussi l'âme. Hein, et je traduis donc ce que dit Graciano, « juif cruel, ce n'est pas ta lame, mais ton âme hein, que tu aiguises ». Donc, effectivement, il va là-dessus jouer sur la théorie de la métampsychose, la transmigration des âmes, et dire que Shylock est devenu un loup. Ça n'est plus un homme, hein, c'est l'ogre, c'est le loup.
Ni un chien, comme au début d'ailleurs.
C'est devenu un chien sauvage, le chien s'est ensauvagé, et le loup est probablement une allusion à ce Rodrigo Lopez, qui était un Portugais marane, médecin, qui a fait carrière dans l'aristocratie et qui était devenu le médecin personnel de la reine Elisabeth. Sur le tard il a été à ce moment-là accusé par le comte d'Essex d'avoir comploté avec les Espagnols pour empoisonner la reine. Et ce Lopez, en 1594, c'est-à-dire l'année qui précède l'écriture du Marchand de Venise, a été torturé et supplicié en place publique à Tyburn, à la façon la plus atroce, pendu puis dépendu, éviscéré, castré, les quatre membres et la tête dispersés aux quatre coins du royaume, comme on le faisait pour les traîtres. Donc l'idée du loup ici, qui traduit l'espagnol Lopez, hein, le loup, est certainement une allusion à ce procès et à cette exécution retentissante.
Le retournement donc, disons-le, qui fait que Shylock se retrouve victime, c'est qu'en le prenant au mot, Portia déguisée du coup en avocate lui dit « Très bien, alors du coup si vous prenez votre livre de chair, mais alors vous n'avez pas le droit de verser une seule goutte de sang. »
Ni une goutte de sang, ni un demi-gramme supplémentaire. Il faut exactement...
Avez-vous une balance?
Voilà, il demande la balance, le chirurgien, etc. Ce qui fait qu'effectivement Shylock est pris à son propre jeu. Il y a donc effectivement une sorte de coup de théâtre tout à fait spectaculaire qui va mener progressivement vers le happy end.
C'est quand même la loi qui rétablit une forme de justice qui n'a de la justice que l'apparence. Mm-hmm. Mais cette pièce montre bien comment Shylock puis Portia, donc le juif puis l'univers des chrétiens, vont l'un et l'autre instrumentaliser la loi à leur propre profit.
Tout à fait. Et ça n'est pas terminé, puisqu'une fois que Shylock aura été donc condamné à se convertir et à donation forcée en quelque sorte à sa fille, qu'il a pourtant volée, hein, quand sa fille Jessica s'est enfuie avec le beau Lorenzo, eh bien, elle a pris les sacs d'or et les bijoux de son père. On dit à un moment, c'est Shylock qui l'apprend de Tubal, qu'elle a pris la turquoise que son épouse décédée, Léa, lui avait offerte. Et qu'avec cette turquoise, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a acheté un singe. Et Shylock, à ce moment-là, a cette expression absolument géniale, qui est aussi un cri de douleur. « Mais moi, je ne l'aurais pas donné pour toute une jungle infestée de singes. Hein, » il y a là quelque chose qui véritablement montre qu'on lui arrache les tripes, quoi, dans cette image hein, de la jungle infestée de singes. Et donc, une fois que Shylock aura disparu, ce qui est intéressant, c'est qu'on va retrouver, sur un mode comique, le même scénario du contrat, puisqu'il s'agit ici du mariage, ça n'est plus Shylock, mais c'est Wedlock en anglais. Wedlock, on retrouve l'idée de serrure, d'enfermement. Et l'avocat Balthazar va demander en paiement de son intervention, puisqu'il a sauvé la vie d'Antonio, va demander à Bassanio, donc, qui doit faire preuve de reconnaissance, non pas une somme d'argent, mais l'anneau nuptial qu'elle lui a donné et dont elle lui avait dit qu'il ne devait à aucun prix se séparer. Donc on aura dans le dernier acte finalement une réaffirmation des droits conjugaux où la femme impose à son mari une conduite absolument irréprochable. Il est interdit de se séparer de l'anneau nuptial et Portia à la fin fera la leçon à Bassanio comme Nerissa fera la leçon à Graciano, hein, qui sont les personnages secondaires de Valet.
Mais ce qui montre qu'on reste quand même dans l'univers de la transaction tout au long de la pièce.
Voilà, l'amour est une transaction parce que pour les chrétiens qui disent « Oh ben non, l'argent n'y touche pas, les intérêts, etc. » c'est vraiment sordide. Eh bien, eux, c'est finalement la course à la dot. Hein, il s'agit d'épouser une riche héritière. Et d'ailleurs, on présente Bassanio comme le nouveau Jason, celui qui a conquis la Toison d'Or, puisque Portia est une blonde, hein, une blonde comme on les aimait à l'époque, c'est-à-dire fair lady, hein, qui, par sa chevelure, si vous voulez, incarne la richesse infinie qu'elle détient. Donc l'argent, voilà, reste quand même une valeur.
Y compris dans le registre amoureux, qui est l'autre versant de la comédie.
Voilà, l'amour n'est pas désintéressé. Quand Jessica, je l'ai dit tout à l'heure, quitte la maison de son père, eh bien, elle s'empare de ses sacs d'or. Hein, donc il y a toujours cet élément de l'argent qui reste.
Et cette pièce reste problématique aujourd'hui. Vous me disiez qu'elle a été au sujet. Alors chaque année, l'Agrégation d'Anglais met une pièce de Shakespeare au programme et que Le Marchand de Venise n'a pas été programmée depuis 79, c'est ça?
Oui.
Et qu'elle est peut-être celle qui est moins jouée. Vous dites dans le dossier qui accompagne la traduction que vous proposez du Marchand de Venise qu'en revanche, cette pièce est beaucoup jouée en Israël.
C'est surprenant. Israël. Oui, bien sûr. C'est une pièce très très populaire parce que évidemment, le juif est le personnage central. Alors bon, les interprétations, les acteurs varie. Je pense qu'en Israël, on fait du juif une victime, essentiellement, hein, des chrétiens. Mais oui, c'est une des pièces les plus jouées en Israël.
Et qui reste polémique aujourd'hui, ça vous le comprenez cette...
Oui, bien sûr. Je pense que, voilà, si on gomme toute la dimension historique et qu'on essaie de faire une actualisation dans la mise en scène de cette pièce, eh bien, on peut y voir, effectivement, une pièce qui semble aller du côté de l'antisémitisme. Et très souvent, des ligues qui combattent l'antisémitisme envoient des protestations régulières aux metteurs en scène, aux acteurs, parce que, voilà, ils trouvent insupportable cette vision caricaturale, selon eux, du juif. Simplement, je crois que Shakespeare, il y a 400 ans, n'avait pas du tout nos problèmes. Il ne connaissait pas la Shoah, il ne connaissait pas le traitement des Juifs, leurs difficultés, leurs persécutions actuelles. Même si il était au courant, effectivement, des persécutions au Moyen-Âge, où les Juifs étaient régulièrement tondus, dépouillés par les rois. Quand les rois avaient besoin d'argent, c'était les Juifs qui devaient payer, sans contrepartie. Sans parler, effectivement, des condamnations par l'Inquisition. Et puis de leur expulsion à la fois d'Espagne et d'Angleterre.
Voilà, donc la question étant de savoir si en recontextualisant la pièce, est-ce que ça permet du coup de prendre de la distance par rapport au contexte actuel qui fait que aujourd'hui jouer, elle reste problématique aux yeux des spectateurs.
Absolument. Alors, est-ce que des mises en garde, est-ce que des dans le programme expliquer qu'effectivement il y a tout un aspect historique à l'époque de Shakespeare, ça n'est pas l'époque actuelle, c'est délicat. Mais moi, je pense qu'il y a chez les Juifs en général un sens de l'humour que nous n'avons pas, nous chrétiens, si vous voulez, puisque les blagues juives consistent à se moquer des juifs, très souvent. Les juifs ont ce sens de l'humour où ils se mettent eux-mêmes...
Mais Shakespeare n'était pas juif, enfin, n'en déplaise à certaines thèses.
Il y a effectivement des ouvrages qui prétendent que Shakespeare était juif, que le nom de Shakespeare, c'est Shapir, auquel on aurait rajouté un X. Il y a des thèses fantaisistes qui circulent, sur lesquelles John Florio, lexicographe, auteur d'un dictionnaire et traducteur de Montaigne, d'origine marane, italien, était l'auteur des pièces de Shakespeare. Donc, cette connaissance des rites juifs serait expliquée par cette origine. Non, je pense que Shakespeare, le procès de Lopez et un certain nombre de données qu'il a pu connaître dans sa vie, lui ont suffi, vu son génie inventif et sa capacité d'intégrer tout de suite les détails qui vont faire sens et qui vont animer sa pièce. Bon, lui ont servi de documentation et d'exemple.
Surtout que beaucoup des caractéristiques qu'on trouve dans le personnage de Shylock s'appliquaient à Shakespeare lui-même, je crois.
Voilà, l'argent pour Shakespeare, c'était... Alors, dans mon dictionnaire, puisque vous avez gentillesse d'en parler, j'ai une très très longue entrée sur l'argent. Le nombre d'images et d'allusions aux pièces d'or, aux pièces d'argent, à la menu monnaie et les jeux de mots sur l'argent sont absolument innombrables. Du temps de Shakespeare, l'entrepreneur de spectacle qui était Philip Henslowe était un rapia, quelqu'un qui allait jusqu'à louer ou vendre les costumes à ses acteurs pour qu'ils puissent jouer et qui gagnait de l'argent de toutes les manières. Et au théâtre, le théâtre était aussi un moyen de s'enrichir. Shakespeare s'est enrichi grâce au théâtre et grâce aussi à ses affaires. Hein, c'était un homme d'affaires très avisé, au point qu'on l'a accusé d'être un usurier, d'être un Shylock lui-même.
Le Marchand de Venise, une pièce sur l'argent et sur la vengeance.
« Let's do some celebrating. Come on, honey. Don't hesitate now. Needed you, it was true. I was so forsaken. Oh, now the tables have turned my move. Can't believe I'll be taking my.
Merci à vous François Larocque d'être venu nous parler de Shakespeare aujourd'hui et du Marchand de Venise dont on trouve votre traduction au livre de poche et puis je renvoie aussi à votre dictionnaire amoureux de Shakespeare qui vient de paraître aux éditions Plomb. Et j'en profite pour vous annoncer chers auditeurs que France Culture est partenaire d'un colloque sur l'antisémitisme puisque c'est la fin de notre semaine sur ce thème. Du 19e au 21e siècle qui se tiendra le jeudi 10 et le vendredi 11 mars au Musée d'art et d'histoire du judaïsme et le samedi 12 mars à la Bibliothèque nationale de France sur le site François Mitterrand avec entre autres la présence de certains de vos producteurs bien-aimés de France Culture, Brice Couturier et Emmanuel Laurentin. Pour l'heure, vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance, il est 10h51, et vous le savez, tous les jours à 10h51, c'est l'heure de prendre 2 minutes papillon pour retrouver Géraldine Mesnil-Savoie.
Considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme.
Plus de 200 ans après l'événement et l'avènement de la démocratie lors de la Déclaration des droits de l'homme, on entend désormais parler aujourd'hui du droit de l'hommisme. Un drôle de substantif un peu péjoratif pour critiquer leur invocation quasi religieuse pour tout et n'importe quoi, et même pour rien parfois, quand il ne reste que l'hypocrisie des mots. C'est comme si à l'idéal originel s'était substitué le réalisme de la récupération politique. Mais en fait, ce procès des droits de l'homme ne date pas d'aujourd'hui. Il a même commencé dès leur déclaration et a pris différentes formes au cours de l'histoire, au point que l'on peut en faire une généalogie, celle du scepticisme démocratique, tel que l'indique le sous-titre de l'essai de Justine Lacroix et Jean-Yves Pranchère. Alors bien sûr, il y a donc les contemporains de la déclaration, les contre-révolutionnaires tels Edmund Burke, il y a aussi ceux, les utilitaristes comme Bentham par exemple, qui fustigent la transformation de ces droits en droits bien établis, naturels même sans plus rien de contestataire, et enfin il y a aussi eu ceux qui pointent du doigt le primat donné au droit individuel comme s'il n'y avait pas de devoir et encore moins de collectif, tel Karl Marx y avait même vu dans les droits de l'homme notre nouvelle religion. À travers ces critiques, il se dégage ainsi toute la complexité dans le temps d'un événement et toute la complexité dans ses lectures d'un texte si simple. Et ce que l'on découvre, ce n'est pas tant le passage de l'idéal au réel, mais plutôt les usages pluriels que l'on peut faire d'un texte. C'est comme si la critique n'était pas extérieure, mais déjà présente dans ses termes. Ce procès sans cesse remis au jour n'est donc pas une condamnation des droits de l'homme, mais bien plutôt une réactualisation du conflit propre à la démocratie.
Les procès des droits de l'homme, généalogie du scepticisme démocratique, c'est le titre du livre.
C'est le titre du livre et c'est par Justine Lacroix et Jean-Yves Pranchère.
Aux éditions du Seuil. Merci Géraldine et merci à tous. Les nouveaux chemins touchent à leur fin. On se retrouve demain pour les chemins du vendredi, dédiés à l'actualité philosophique. Et bien demain, c'est une actualité mystère que nous vous proposons. Je découvrirai l'identité de mon invité en entrant en studio à 10h. Avec vous donc, chers auditeurs. Alors rendez-vous, le rendez-vous est pris. J'espère nous découvrirons ensemble qui est l'invité et quels sont... quel est le livre qu'il a écrit à cette occasion, enfin qui lui vaut d'être invité. Et peut-on choisir ses désirs? C'est une question que vous vous posez. Eh bien, c'est la question qui sert de dossier central au numéro du mois de mars de Philosophie Magazine dont nous sommes partenaires. Peut-on choisir ses désirs? Donc, mais aussi un cahier central consacré à Walter Benjamin et le sens de l'histoire par Régis Debray et Enzo Traverso. Rendez-vous sur le site de France Culture pour réécouter cette émission ainsi que toutes celles consacrées à l'antisémitisme cette semaine. Rendez-vous également sur nos pages Facebook et Twitter où les nouveaux chemins mettent en ligne quotidiennement l'émission du jour et nous attendons vos remarques et commentaires.